La première,
9h-10h,
l'histoire continue,
Bertrand N., Hélène Maquet.
On enlève toujours le pétrole à la pelle, à la raclette et dans des poubelles.
On m'a dit à ce moment-là que les barrages allaient être mis à notre disposition, ce qui était déjà bien entendu trop tard.
Si il y eut la marée noire, en ce moment, elle est devenue grise.
Il y a des jours noirs, des jours qui changent à jamais la perception que nous avons du monde.
Il y a des événements qui inaugurent de nouvelles ères à tel point qu'ils font surgir de nouveaux mots.
C'est le cas du naufrage du Torrey Canyon, grand pétrolier qui s'est échoué dans l'Atlantique, déversant des tonnes de pétrole en 1967.
Première grande catastrophe écologique moderne qui a vu naître le terme de marée noire.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Histoire continue.
Les oiseaux englués de mazout, les plages défigurées, l'angoisse des pêcheurs, ces images-là, jusqu'à la fin des années 60, elles étaient quasiment inconnues du grand public, tout simplement parce qu'il n'y avait pas encore eu de marée noire majeure où les caméras de télévision étaient présentes.
Tout ça a changé au début du mois d'avril 67, quand un gigantesque pétrolier d'une compagnie pétrolière américaine s'est échoué sur un banc de rochers au large de la Bretagne. Dans les semaines qui ont suivi, le monde a peut-être compris deux choses. D'abord, que les catastrophes écologiques pouvaient survenir. Ensuite, que personne ne savait comment réagir.
Alors derrière la catastrophe du Torrey Canyon, il y a énormément de questions qui se posent encore aujourd'hui. Vivons-nous encore des catastrophes écologiques ou sommes-nous entrés dans un état de crise permanente? Le Torrey Canyon marque-t-il vraiment le début d'une prise de conscience écologique?
Et la catastrophe du Torrey Canyon pose aussi une question qui résonne aujourd'hui, peut-être plus que jamais. Quelle est la responsabilité des entreprises derrière les grandes pollutions? Elle résonne aussi avec la question de l'écocide, celle des pertes et préjudices, les dommages causés par le réchauffement climatique et la question de savoir qui doit payer pour tout ça.
Alors avec nous pour en parler, Michel de Mulenard, bonjour.
Bonjour.
Journaliste au Soir, spécialisé dans les questions d'environnement. La catastrophe du Torrey Canyon, c'est un moment historique, iconique?
Oui, absolument. C'est un moment, comme vous l'avez dit, qui a été extrêmement médiatisé, qui a donc véhiculé toute une série de symboles, toute une série de remises en question. Et donc, pour cette raison, c'est devenu une espèce de point de départ de quelque chose.
Karine Thibault, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes également notre invitée, vous êtes porte-parole de Greenpeace Belgique. Le naufrage du Torrey Canyon, ça intervient en 67, c'est un moment fondateur pour les mouvements environnementaux et peut-être pour Greenpeace?
C'est un moment fondateur au sens où on est dans les années 60 et qu'on n'est pas encore dans une prise de conscience claire de l'impact des activités humaines sur la planète et sur la nature. Alors, ce n'est pas le moment fondateur de Greenpeace puisque Greenpeace naît un peu plus tard. Mm-hmm. Mais c'est évident que tout à coup, je pense que l'ensemble des gens se rendent compte qu'en fait, on peut détruire les écosystèmes. Et quand on détruit les écosystèmes, en fait, on détruit aussi notre capacité à vivre. Tout simplement, ce sera le cas des pêcheurs, mais aussi du tourisme dans la région.
Allez, on se replonge dans nos archives, notamment grâce à un très bon reportage de l'émission 9 millions qui était allé en Bretagne en 1967, un reportage réalisé par Salvatore Ney.
Pas si loin sur la mer, on aperçoit la silhouette paisible de l'île Milio qui fait le gros dos, fidèle à elle-même et à la Bretagne. Les murs couverts de chaux des petites maisons, les pentes abruptes des toits, les cheminées qui émergent des vallons. Mais sur la plage de Trébeurden, ce début de printemps ne ressemble à rien de normal. Hommes, femmes, enfants actives, bottes en caoutchouc aux pieds. Ils étalent du foin à même le sable en longues lignes sur des dizaines de mètres de long, puis l'enroulent dans des bâches et serrent le tout avec des cordes.
À côté de la plage de Trébeurden, il existe un petit port de pêche. Une partie de ses habitants confectionne toujours des barrages artisanaux. Il leur faut encore 300 mètres pour fermer l'entrée du port avant la marée. Le pétrole est signalé au large.
Dérisoire, petit fétu de paille, face aux milliers de tonnes de pétrole qui vont déferler sur les plages bretonnes, s'insinuer dans les rochers, jusque sous les plumes des oiseaux.
À 11h30, c'est l'heure du casse-croûte. Tout le travail va s'arrêter pendant 3 heures. Le pétrole est toujours signalé au large.
Quelques bouteilles de cidre, du pain, passent de main en main. Nous sommes en 1967. La situation est totalement inédite. En réalité, sur la plage de Trébeurden, même si c'est l'urgence, personne ne mesure encore vraiment l'ampleur de la catastrophe.
La situation est très grave, dit-on à Paris, mais ce n'est pas une catastrophe nationale. Ce 12 avril, le gouvernement français débloque 150 millions de francs belges de crédit pour lutter contre la marée noire. Mais pour la Bretagne, précise le ministre de l'Intérieur, c'est une catastrophe. 38 plages polluées, en tout 90 km de côte. Chaque année, le tourisme rapporte 1 milliard de francs belges au département des Côtes du Nord. La côte de Granit Rose, où nous sommes, y contribue pour 50%. Monsieur Dumas, le ministre du Tourisme, est optimiste. Les plages seront dégagées pour juin. Je me baignerai ici devant vous, dit-il aux journalistes.
Et en effet, les hôteliers sur la côte de Granit Rose sont encore optimistes. La saison estivale s'ouvre dans 6 semaines. Des dizaines de milliers de touristes doivent affluer sur les plages bretonnes. Cette histoire de marée noire est une bien mauvaise publicité.
Nous pensons que maintenant, si il y eut la marée noire, en ce moment, elle est devenue grise et on peut dire qu'avant 15 jours, ce sera la marée blanche.
Bien sûr que la marée noire va rester bien plus longtemps que cela. Mais surtout, dans cette première catastrophe écologique moderne, les mauvais choix vont venir s'ajouter à l'accident. Et la catastrophe va venir s'ajouter à la catastrophe. Tout a commencé à plusieurs centaines de kilomètres de là, 22 jours plus tôt. Un bateau, un pétrolier de 300 mètres de long, chargé de 120 000 tonnes de pétrole brut, passe au large des Cornouailles. La société pétrolière qui a affrété le navire, l'Union Oil Company of California, se fait pressante. Le bateau doit arriver au plus vite au port de Milford Haven, au Pays de Galles. Alors le capitaine du Torrey Canyon, c'est le nom de ce bateau, un certain Pastrengo Ruggiati, décide de couper court et de passer par une zone où affleurent des rochers, dont un est surmonté d'un gigantesque phare, les Sept Rocs. Une série de problèmes s'enchaîne et le Torrey Canyon s'échoue. L'équipage, heureusement, est sauvé par hélicoptère. Les côtes sont proches. Mais 9 jours plus tard, le bateau se brise en deux et laisse s'écouler toute sa cargaison dans l'océan Atlantique. Le monde est pris de court. Alors le gouvernement britannique pense à une solution. Bombarder le navire pour faire brûler le pétrole.
Jet planes from the British Air Force bomb the ship with 42,000 pound high explosive bombs.
30 tonnes de bombes, de roquettes, du napalm sont larguées sur la carcasse du bateau. Mais ça ne fonctionne pas. Le pétrole prend feu et la pollution s'intensifie.
Le drame, c'est que la côte ici est une des plus déchiquetées d'Europe. 4/5 en sont formés de grèves rocheuses. Les nettoyer n'est pas simple. Il y a 5 jours, le préfet des Côtes du Nord nous déclarait « Aucun des moyens mis en œuvre jusqu'à présent n'a donné entière satisfaction. » De plus, les îles qui parsèment cette côte, Roussic, Bréa, Air et tant d'autres, sont toutes cernées par le pétrole. Il est vrai qu'il était attendu dans la presqu'île du Cotentin, dans le Pas-de-Calais, mais pas ici.
Alors, produits chimiques sous le bras, une série d'industriels, dont certaines compagnies pétrolières, proposent une nouvelle solution. Puisqu'on ne peut pas faire brûler le pétrole qui s'est échappé dans l'eau, on va le dissoudre avec ce que les industriels appellent des détergents. Dans les villages de pêcheurs de la côte, des questions se posent. N'est-ce pas dangereux? N'est-ce pas toxique? Non, non, certainement pas, répondent les marchands de détergents aux journalistes qui sont sur place.
Certains détergents peuvent être employés sans trop de danger, à condition de les mélanger à de grosses quantités d'eau. De ce fait, il est à peu près non toxique et inoffensif pour la vie marine. Croyez-vous que l'on puisse nettoyer la côte bretonne sans recourir aux détergents? Je pense qu'il faudra éventuellement l'employer parce que les résidus d'hydrocarbures collent aux rochers.
le détergent sera nécessaire. Je crois savoir que ce n'est pas votre première visite. Je suis déjà venu la semaine dernière. J'ai essayé de trouver une personne responsable afin de lui démontrer l'efficacité de notre produit. Nous avons enfin réussi à faire un test. Malheureusement, le rapport a été égaré.
Le lobbying sur place est intense. Avec ce message, les détergents sont nécessaires. Il s'avérera plus tard qu'ils ont été plus toxiques que le pétrole déversé par le Torrey Canyon. Et donc nous voilà, le 9 avril, le long de ces côtes bretonnes. Poussée par les vents, la gigantesque nappe de pétrole est en train de déferler sur la plage de Trébeurden et sur la côte de Granite Rose. L'armée est arrivée dans l'après-midi pour prêter main forte. Le plan de secours s'appelle le plan ORSEC, Organisation des Secours. Les maires de la côte ont été invités à une réunion.
D'abord, la première réunion auquel les maires de la région ont été convoqués pour prendre contact avec les autorités et pour être mis au courant des moyens que pouvait leur apporter le plan ORSEC pour lutter contre la marée noire, la première chose qu'on nous a dit, c'est que le plan ORSEC avait tout prévu en ce qui concerne les fléaux qui pouvaient venir de la terre ou se produire sur la terre, et qu'en ce qui concerne la mer, on n'avait absolument rien prévu. Et puis, à partir du moment où déclenche le plan ORSEC, on pense beaucoup à la réquisition des civils, mais c'est une mesure qui s'avère inopérante. La seule mesure réellement rentable, c'est la participation de l'armée. Mais l'armée est une grande dame et n'est pas toujours facile à remuer.
Il est trop tard. Personne n'avait vraiment compris. Personne n'avait vraiment saisi l'ampleur de l'enjeu. En catastrophe, on tente de produire des barrages qui pourraient faire barrière. Les pêcheurs sont dépités quand on leur demande comment s'est manifestée l'aide.
Par une débandade complète le lundi matin, puisque à ce moment-là, j'ai averti, moi, la première chose que j'ai fait, c'est d'avertir la gendarmerie de Tréguet, en leur disant que la nappe était dans la rivière, tout simplement dans la rivière. Et alors on m'a dit à ce moment-là que les barrages allaient être mis à notre disposition, ce qui était déjà bien entendu trop tard. À ce moment-là, je savais que les barrages n'étaient pas prêts, qu'ils étaient en construction à Toulouse et qu'ils ne devaient être prêts que quelques jours plus tard.
Les images sont désolantes. Alors, pêcheurs, agriculteurs, militaires font face à la mer avec les moyens du bord.
On enlève toujours le pétrole à la pelle, à la raclette et dans des poubelles achetées par milliers aux quatre coins de la France.
Le travail est titanesque. Sur les plages, chaque nouvelle marée ramène du pétrole. La mer est noire, les plages sont noires, les rochers sont noirs. Les Bretons se sentent abandonnés.
Notre région ici est quand même assez défavorisée déjà au point de vue développement industriel. Et je peux dire que si une catastrophe semblable serait arrivée à Bôle ou à Deauville ou sur la Côte d'Azur, je pense que de suite, une mise en place rapide, n'est-ce pas, pour prévoir cette catastrophe, aurait été mise en place de suite.
Dans les bureaux du Télégramme, quotidien breton, la rédaction forcément est sur le pied de guerre. Lucien Gégoudet, chef du bureau local de Morlaix, a pris la photo d'un macareux, les ailes écartées en croix, les plus maculées de mazout. La photo a fait le tour du monde. Il y a quelques jours, le journaliste a insisté pour un titre, « La marée noire ». La rédaction est divisée. C'est un peu catastrophiste, il ne faudrait toujours pas faire peur aux touristes qui doivent arriver avec l'été. Mais en même temps, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Alors finalement, va pour la marée noire. En quelques jours, l'expression passe de bouche en bouche, de titre en titre, faisant pressentir que ce phénomène inédit va avoir besoin d'un nom, parce que c'est loin d'être la dernière fois qu'il survient.
La première,
l'histoire continue.
Hélène Maquet, Bertrand Haine.
Nous prenons donc beaucoup de recul aujourd'hui. 1967, c'est quand même, il y a plus d'un demi-siècle, on perçoit dans nos archives toute l'impréparation des autorités françaises face à cette marée noire. On bombarde d'abord le bateau.
D'ailleurs, il y a une erreur qui s'est glissée dans le récit.
Le pétrole ne brûle pas.
Ouais, c'est une erreur de ma part. Le pétrole ne brûle pas.
Ouais. Et on met des détergents pour essayer donc de récurer ou de rattraper une partie de ce pétrole qui n'a pas brûlé, on essaye de construire des barrages en paille. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Michel de Melenard, on commence peut-être par vous. À l'époque, on ne sait pas ce que c'est une catastrophe écologique comme ça. On ne sait pas, on n'a pas d'expérience.
En tout cas, on ne sait pas ce que c'est une catastrophe écologique de cette ampleur-là, avec ce type de produit dans cet endroit-là. Parce que, évidemment, les circonstances dans lesquelles ça s'est passé sont extrêmement compliquées. Le paysage est compliqué, l'endroit est compliqué, l'étendue de la marée est tellement grande que ça complique forcément les secours ou les opérations de nettoyage. Mmh. Mais par ailleurs, comme votre reportage l'a bien montré, on était dans un état d'impréparation totale. On n'avait pas de plan, on n'avait pas de produit, ou ceux qu'on avait, on ne connaissait pas exactement leur impact sur l'environnement ou sur la santé.
Et c'est incroyable de voir que c'est l'industrie pétrolière qui vient faire du lobbying pour ses propres produits, pour venir nettoyer une catastrophe qu'elle a mise en place. Enfin, c'est assez fou.
Oui, après, je ne pense pas qu'il y ait un grand complot là derrière, mais il faut bien que les produits soient fabriqués quelque part par des industries, etc. Et il faut dire que les pétroliers ont une certaine compétence en matière de produits chimiques, etc. Mais effectivement, c'est un amusant paradoxe, disons.
Karine Thibault, est-ce que la catastrophe du Torrey Canyon, elle va éveiller les consciences? On voit ces images de macareux englués dans le mazout. Il y a des tas d'animaux qui sont morts à ce moment-là, des oiseaux, des pingouins notamment, qui étaient au large de la Bretagne. Est-ce que ça va vraiment avoir un impact sur l'éveil des consciences?
Alors en fait, ça marque clairement, parce que je pense pour la première fois, on l'a dit, c'est une catastrophe d'une ampleur inégalée qui touche très fortement des écosystèmes et pour lesquels on voit aussi l'interaction entre l'être humain et ses écosystèmes, on l'entend, le tourisme, les pêcheurs. Donc il y a cette question d'interaction qui est visibilisée et on est dans un moment où effectivement l'ensemble des organisations environnementales vont commencer à apparaître sur en tout cas le spectre social et politique, puisque Greenpeace naît en 71, mais de la confluence de deux mouvements, je dirais. Un premier qui est lié au pacifisme et à la question des essais nucléaires et les effets que les essais nucléaires ont évidemment sur les écosystèmes mais aussi sur les populations qui vont les vivre. Et de l'autre côté, cette prise de conscience qui est finalement après le grand boom des années 60, qu'il y a une limite à ce modèle de société de consommation de masse. Et tous ces mouvements comme Greenpeace sont là pour, à un moment donné, créer un mouvement social et civique pour... Un peu comme les droits des femmes ou un peu comme d'autres mouvements.
Il y a d'autres mouvements civiques à ce moment-là qui sont très présents et il en faut un quelque part pour l'environnement.
Pour l'environnement, pour la planète et pour la nature qui est considéré avant tout comme un objet dont on peut faire ce qu'on veut.
Et d'autant plus, Michel de Melenard, qu'en 67, c'est le roi pétrole. En 73, on aura la grande crise du pétrole avec la guerre du Kippour, etc. Mais à ce moment-là, ça paraît la solution au développement, quoi. Ça permet vraiment le développement de l'Europe, ça permet vraiment le développement notamment automobile. C'est la première fois qu'on voit qu'il y a un revers à la médaille.
Tout à fait. C'est un des symboles dont je parlais tout à l'heure. C'est effectivement, ça touche au cœur le sang de l'économie développée et le sang, quelque part, du monde. Et on se rend compte que quelque chose, un modèle qui fonctionnait comme sur des roulettes, au propre comme au figuré, a des inconvénients majeurs. Et on commence à se poser des questions. Après, je pense qu'il ne faut pas exagérer l'expression « éveil des consciences », parce que les consciences s'éveillent vite, mais elles se rendorment tout aussi vite. Vous avez sans doute entendu parler de Deepwater Horizon, vous avez entendu parler d'Erika, d'Amoco Cadiz, de l'Exxon Valdez, d'AZF, de Bhopal. Disons que si les consciences avaient été éveillées complètement, totalement, et étaient restées éveillées, peut-être que ce genre d'autres catastrophes n'auraient pas eu lieu. Ce qui frappe très fort aussi dans le cas des marées noires, c'est que ça intervient dans des milieux purs, ou soi-disant purs. Donc c'est un des éléments du symbole fort de la marée noire. C'est les océans, c'est les mers,
la nature,
il ne s'y passe rien.
L'envisage.
Voilà, la nature est libre, la nature fleurit, tout se passe bien. Et là, marée noire, on se rend compte qu'on est en train de détruire ça. Après, c'est une image totalement tronquée, puisqu'on sait que des événements de destruction écologique à bas bruit se passent régulièrement et ont peut-être souvent des conséquences plus graves que des événements ponctuels, très médiatisés.
C'est intéressant parce que dans la perception qu'on a des choses aujourd'hui, on a le sentiment qu'on est passé de catastrophe écologique à un instant T, par exemple le Torrey Canyon, par exemple Bhopal, on en parlait tout à l'heure, à un moment où on est dans un état de crise permanente.
Oui, en fait, alors nous, on n'utilise pas beaucoup le mot de crise permanente parce que ça donne la sensation qu'il va y avoir une solution à la crise et que ce sera ponctuel et limité dans le temps. On est effectivement dans une situation dans laquelle les écosystèmes sont à un tel niveau de souffrance qu'en fait, ils sont en train d'arriver à un point de rupture, même par rapport à notre propre survie en termes d'humanité. Et sur la question climatique, le dérèglement climatique, on est aussi dans une situation dans laquelle on n'arrive pas à mettre en place les politiques publiques qui seraient nécessaires et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, on continue à fonctionner sur une économie très fossilisée et à ne pas être capable de prendre une décision de sortie des énergies fossiles qui est sine qua non de la réponse qu'on doit donner au dérèglement du climat.
Alors c'est intéressant de voir que la catastrophe du Torrey Canyon, ce sont d'abord les médias locaux qui s'en emparent. On parle du Télégramme, le quotidien breton notamment, qui va donc amener ce terme de marée noire. Ça va prendre du temps avant que Paris s'en inquiète, comme ça qu'on dit à l'époque. Mais il va finir par y avoir donc cette couverture médiatique. Ça renvoie aussi à l'évolution plus globale de la couverture médiatique des questions liées à l'environnement. Michel de Mullenard, ça fait une quinzaine d'années que vous traitez ces sujets-là au soir. Comment est-ce que vous y êtes venu ?
Parce que j'aimais ça. Parce que c'est un sujet passionnant, parce que c'est un sujet sur lequel on apprend tous les jours, on découvre beaucoup de choses. Ça, c'est une considération à caractère personnel. Et puis, par ailleurs, c'est un sujet, c'est un mot qu'on utilise souvent aujourd'hui, c'est un sujet systémique, c'est-à-dire c'est un sujet qui intervient dans tous les aspects du fonctionnement de la société, de l'économie, de l'individu même. Et c'est ça qui est passionnant dans ce sujet-là, c'est qu'on peut, quelque part, y mettre une petite couleur dans tous les événements, dans tous les sujets qu'on peut traiter. Et ce qui est intéressant, je trouve, dans le métier, ce n'est pas de rester dans un trou, dans une bulle, mais c'est au contraire de s'intéresser à différents niveaux du monde et de faire des liens, d'établir des liens entre les problématiques. Et la problématique environnementale est typiquement une problématique multilien.
Je voudrais revenir sur l'impact de cette marée noire, donc évidemment l'impact environnemental, mais aussi l'impact sur les populations via les médias. Ce terme de marée noire qui est inventé, cette photo de l'oiseau mazouté, etc. Vous, dans les associations environnementales, bon, Greenpeace en particulier, on peut penser aussi au WWF, vous avez besoin d'icônes, vous avez besoin aussi de pouvoir incarner la catastrophe écologique.
Toujours, hein. Donc en fait, ouais. De plus en plus, on a besoin d'incarner. Et alors par contre, je pense qu'il y a quelque chose qui a changé dans le temps. C'est le fait qu'au début de la création des organisations environnementales ou de Greenpeace, on incarnait par l'impact sur les écosystèmes. Donc typiquement, l'oiseau mazouté et autres. Or, de plus en plus, on est sur une proposition d'incarnation aussi sur ce qui est en train de se passer auprès de populations
auprès des gens
qui vivent directement, par exemple, les impacts du dérèglement climatique, mais qui sont un petit peu loin des cœurs et en tout cas des audiences des pays les plus industrialisés ou des pays les plus riches, même si c'est en train de changer avec les inondations, par exemple, qu'on a vécues en Wallonie, qui sont aussi un point de basculement, par exemple, je pense, pour la Belgique, sur la compréhension du dérèglement climatique et sur le fait de se rendre compte qu'en fait, ça va arriver de manière de plus en plus régulière, de plus en plus proche. Donc là, maintenant, en tout cas, beaucoup d'organisations environnementales ont choisi d'incarner à deux niveaux. D'une part, la question des populations, mais aussi la question des écosystèmes, et d'avoir une approche plus systémique qu'à l'époque, qui permet de, en tout cas, faire le lien entre l'interdépendance entre l'humain et évidemment des écosystèmes sains et une planète qui puisse fonctionner et un climat qui reste en deçà des 1,5 degrés. Je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui a changé avec le temps, qui est comment est-ce qu'on peut avoir, en tout cas, une proposition plus systémique, mais qui renvoie aussi aux responsabilités. Parce que c'est là où peut-être on n'en a pas beaucoup parlé. On doit aussi incarner qui est le problème et qui bloque et limite. Et là, les pétroliers ont une lourde responsabilité.
Avant d'y venir, parce que évidemment, c'est une des grandes questions qui se posent aujourd'hui, Michel de Mullenard, comment est-ce que vous avez vu évoluer ce métier de journaliste environnement ? Karine Thibault parlait à l'instant du côté des ONG, on voit les choses maintenant de manière plus systémique, on voit plus tellement les choses du point de vue des conséquences. Est-ce que vous diriez que dans le traitement de l'information sur l'environnement, les choses ont changé aussi un peu dans ce sens-là ?
Les deux mots que vous avez utilisés, c'est un peu, ce sont les mots corrects. Donc effectivement, il y a des choses qui changent. quand vous êtes en rééducation, il y a un moment où vous êtes énervé parce que ça ne va pas assez vite. Mais si vous regardez 2 mois ou 3 mois en arrière, vous vous rendez compte des progrès accomplis. Donc, c'est une question de point de vue. Donc, effectivement, des choses ont changé, loin d'être suffisant.
Vous avez eu le sentiment quand même de prêcher dans le désert sur l'intérêt de parler de ces sujets-là. Pendant tout un temps, vous avez le sentiment qu'il n'y a pas eu l'intérêt qui était nécessaire.
Mais disons que ça fait un moment que Le Soir, bien avant moi, a demandé à un journaliste de s'occuper de ces matières-là. Donc c'est une matière qui avait droit de cité dans le journal et je pense que dans la plupart des médias également. Après, il s'est passé quelque chose à deux points de vue. C'est un, que les connaissances scientifiques ont fortement progressé. Les alertes se sont multipliées, les constats se sont faits de plus en plus graves, les diagnostics sont plus complexes qu'auparavant et plus net qu'auparavant. Donc, désormais, il n'y a absolument plus de discussion sur ces questions-là. Et au contraire, comme Karine l'a dit, on se rend compte que le tableau est vraiment plus grave qu'on ne le pensait. Donc ça, c'est une première chose. Donc forcément, quand un sujet devient plus grave, forcément, on lui accorde davantage d'importance. Et puis, par ailleurs, on commence à se rendre compte, comme je le disais, que c'est pas... je vais utiliser une caricature. C'est pas un sujet qui concerne les petits oiseaux, les pandas ou les baleines ou les pingouins mazoutés. C'est quelque chose... l'environnement qui concerne notre modèle de développement, notre modèle économique, notre modèle de société, nos habitudes de mobilité. Et ça, ce sont des manières de voir qui commencent à s'imposer. Après, le problème, c'est qu'il faut derrière changer les pratiques, changer les approches, changer les cerveaux. Et ça, ce sont des choses qui prennent un petit peu de temps.
La première,
l'histoire continue. Bertrand N. Hélène Maquet.
Alors, la catastrophe du Torrey Canyon a beau avoir eu lieu il y a plus d'un demi-siècle, en 1967, on sent bien à quel point elle génère des questions qui sont encore très actuelles, notamment, évidemment, on a commencé à en parler, celle de la responsabilité des entreprises, avec vous notamment, Karine Thibault, porte-parole de Greenpeace Belgique. Alors, à l'époque, on voit bien que l'Union World Company of California, elle n'est pas tenue pour responsable de ce qui s'est passé.
Non, complètement. Et on va voir ça dans plein de marées noires où, en fait, on est dans un système de sous-traitance en cascade dans lequel la complexité de la responsabilité est quasi impossible à suivre. Ça va être le procès fleuve, par exemple, sur l'Erika contre Total Energy, enfin, ce qui était à l'époque Total Fina, qui va montrer à quel point c'est très difficile pour les victimes de pouvoir obtenir des réparations, de pouvoir clarifier les responsabilités et autres. Et en fait, on est toujours, pour nous, un peu dans la même situation. Ça veut dire qu'on a en tout cas, dans beaucoup d'endroits, des permis environnementaux qui sont trop laxistes, qui ont tendance à ne pas prendre en compte assez les impacts sur la santé ou sur l'environnement, et donc à privilégier l'activité industrielle, et donc forcément à laisser faire des activités qui pourraient être dommageables, et après on verra ce qu'on peut faire. Et de l'autre côté, on a encore des responsabilités qui ne sont pas encore complètement assumées par les entreprises, et l'exemple actuel, c'est évidemment sur le dérèglement climatique, puisqu'on se rend compte que les entreprises fossiles savaient depuis les années 70 l'impact de leurs activités sur le dérèglement du climat et même plus loin sur ce que ça allait faire sur certaines régions. Mais pour autant, elles rechignent très largement, en tout cas, payer des réparations et aller quelque part participer à la réparation des dommages qu'elles ont causés sur plusieurs régions de la planète, en tout cas.
Michel de Mullenard, le principe du pollueur-payeur, on n'y est pas?
On y est à un certain niveau, mais on n'y est pas complètement. C'est clair qu'il y a toute une série de pollutions et indépendamment des catastrophes ponctuelles, où là, c'est, disons, relativement facile, entre guillemets, de déterminer les responsabilités. Mais non, la question du pollueur-payeur, c'est très compliqué à la faire appliquer. Et par ailleurs, ne le répétez à personne, mais il faut bien reconnaître que l'environnement, ça reste une variable d'ajustement de l'économie, de la société, de toute une série d'approches de la mobilité également. Ce n'est pas le cadre fixe dans lequel on joue, c'est un cadre dont on peut de temps en temps tirer les bords, entailler les morceaux.
Parce qu'on a besoin qu'une industrie s'implante quelque part.
Parce qu'on a besoin de créer des emplois, parce que si on est trop strict, on va perdre de l'argent, parce qu'on va embêter la population. Donc c'est toujours un cadre sur lequel on se dit il y a moyen de faire une petite entaille ou une grosse entaille. Mais d'entaille après d'entaille, on en arrive à quelque chose qui est massif est vraiment destructeur.
Aujourd'hui, des populations qui seraient lésées par une catastrophe environnementale, par des problèmes structurels liés au réchauffement climatique ou autre chose, qu'est-ce qu'elles ont à leur disposition comme arsenal juridique pour dire « j'exige une réparation ».
Elles ont plusieurs éléments à leur disposition, donc je pense qu'il y a une multiplication de ce qu'on appelle les litiges contre les entreprises, que ce soit sur la question du climat, mais sur la question aussi des scandales environnementaux. Enfin, l'exemple, par exemple, c'est en Flandre, hein, donc le scandale PFAS lié à l'entreprise 3M.
Eh bien, à Zwijndrecht, hein,
voilà, exactement. Les habitants ont dû porter plainte contre l'entreprise, justement pour éviter que ce soit le contribuable flamand, dans ce cas-ci, qui paye en tout cas l'assainissement des sites et des villages, et ainsi de suite, ainsi que les analyses qui doivent être faites. Donc, il faut encore porter plainte. Ça, c'est un des éléments.
Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de gens qui le font maintenant. Ces questions-là vont de plus en plus en justice?
Ah oui, ces questions-là vont de plus en plus en justice. Elles l'ont été à l'époque des marées noires, mais elles le sont de plus en plus sur des sujets de plus en plus variés. Et elles ont un impact en partie sur les grandes entreprises. C'est pour ça qu'on a vu 3M, par exemple, faire une déclaration sur la sortie des PFAS en 2025. C'est évidemment
les PFAS,
lié...
c'est les polluants éternels. Hein. C'est les polluants qui se retrouvent dans les terres et qui restent là et dont on ne sait pas quoi faire et dont on sait qu'ils sont extrêmement dangereux pour la santé.
Exactement, qui ont des effets, en tout cas, par exemple, sur le cancer ou d'autres types de maladies. Et donc là, on voit bien que ça a un effet sur les entreprises. Par contre, pour nous, ce n'est pas encore suffisant. Pour avoir ce point de basculement dont Michel parlait, ça veut dire arrêter d'une variable d'ajustement, mais être une compréhension plus holistique de comment est-ce qu'on va équilibrer les sociétés dans lesquelles on veut devenir, avec des équilibres sociaux, équilibres environnementaux, équilibre évidemment de développement économique. Et c'est là où la question de l'écocide est une nouvelle question qui a un intérêt, parce que là, c'est le moment de la pénalisation, et pas de la pénalisation de l'entreprise, mais de la pénalisation des responsables dans les entreprises, donc des grands dirigeants d'entreprise qui, à un moment donné, pourraient se retrouver à devoir répondre devant des cours pénales internationales.
Michel de Mullenard, qu'est-ce que c'est exactement ce concept d'écocide?
Mais comment expliquer les choses de manière simple? Il s'agit d'une qualification juridique d'une atteinte grave et permanente à l'environnement et qui donc peut être invoquée devant un tribunal, que ce soit un tribunal national ou que ce soit un tribunal international. Alors, c'est pour l'instant une discussion qui est, je trouve, fort limitée à des aficionados, des geeks et des experts. Elle progresse doucement. Je pense que c'est un concept intéressant, c'est un concept de débat passionnant. Je crois que ça mettra un certain temps avant qu'on puisse utiliser cet outil-là pour véritablement peser sur des grands criminels environnementaux.
Aujourd'hui, il n'y a pas d'écocide reconnu.
Non, pour l'instant, il n'y a pas de
jugement.
Voilà, exactement. Donc, il y a des écocides revendiqués par des personnes qui constatent des dégâts environnementaux, mais pour l'instant, il n'y a pas eu de condamnation. Mais comme Karine le disait, et comme vous le savez, il existe déjà toute une série de dispositifs, que ce soit des cadres légaux, que ce soit des sanctions pénales ou économiques contre des pollueurs. Donc, il existe déjà des dispositifs. Et je pense que l'un des enjeux aussi, c'est d'abord de faire fonctionner ces dispositifs-là. C'est-à-dire d'avoir des bons cadres, d'avoir des gens qui contrôlent, ce qui est beaucoup trop rare. Et en cas de dérive, en cas de violation du droit et du cadre, d'avoir des poursuites. Et ça, pour l'instant, ça reste très marginal encore.
Alors, il y a un autre concept dont on a beaucoup parlé, notamment pendant la dernière COP, c'est celui des pertes et préjudices. Karine Thibault, qu'est-ce que c'est et c'est quoi la différence entre écocide et pertes et préjudices?
Alors, les pertes et dommages, donc c'est quelque
pertes
chose...
Pertes et dommages. Oui, mais
on... Il peut y avoir les deux expressions, ça se discute la traduction en français. Le concept est assez simple, c'est le fait de dire qu'à un moment donné, on est déjà dans une situation dans laquelle le dérèglement climatique fait des victimes et des dommages importants. Et donc, comment est-ce qu'on peut avoir un fonds qui soutienne les pays qui font face à ce type de pertes et dommages, qui sont souvent les pays qui ont le moins causé le dérèglement climatique parce qu'ils sont le moins émetteurs de gaz à effet de serre. L'exemple type, ce sont les inondations qui ont lieu au Pakistan, un pays qui est émetteur de 1% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Là maintenant, le principe a été accepté à la COP27, mais toute la discussion pour la mise en place de ce fonds va se faire dans les COP à venir, parce que pour l'instant, rien n'est réglé. Le niveau de montant, qui va contribuer, comment ça va se passer, comment est-ce qu'on va éviter que finalement peu de communautés aient accès à ce type de fonds, ce qui se passe déjà sur d'autres fonds climat. Mais une des choses qui pour nous est importante en tant que Greenpeace, c'est de dire qu'il y a aussi des responsabilités des entreprises. Et donc il y a là des mécanismes qu'on devrait mettre en place de taxation des profits des entreprises, bénéfices, pas seulement des surprofits d'entreprises fossiles qui avaient la connaissance des enjeux, mais qui l'ont encore actuellement. Et donc ça, pour nous, c'est là où il y a une question de fond, et Michel l'a bien dit, sur le fait de peut-être comment on utilise aussi de plus en plus les tribunaux pour mettre ces entreprises face à leurs responsabilités, que c'est quand on regarde les politiques climatiques des grandes entreprises fossiles dans le monde, on est encore dans des investissements à trois quarts qui sont dans le fossile. Seulement un quart va vers le renouvelable, alors qu'elles ont les moyens structurels pour faire cette transition. Mais là, maintenant, évidemment, c'est est-ce que ce point de basculement est réel ? Et donc, si on veut un vrai point de basculement, il va falloir forcer clairement des décisions politiques, mais aussi des décisions d'entreprise.
Oui, d'autant plus que c'est parfois difficile d'attribuer la responsabilité à un acteur particulier. Alors, si on revient à cette catastrophe, là, c'est clair. Enfin, je veux dire, il y a un bateau qui s'échoue, mais en même temps, il y a un affréteur qui n'est pas nécessairement l'armateur, qui bat un pavillon qui n'est pas nécessairement celui du pays du producteur de pétrole. Et puis, il y a aussi le pays qui est victime, qui n'est pas celui d'où vient nécessairement la marchandise. Bon, ça a posé problème au moment du Torrey Canyon, mais au moment de toutes les marées noires. On reste avec cette idée quand même. Et ça, c'est aussi, ça fait résonance avec d'autres cas actuels, notamment les PFAS, que c'est parfois, donc ces polluants éternels, difficile d'attribuer ces polluants-là à des usines ou à des producteurs, notamment sur le site de Feluy. Je sais qu'il y en a aussi à Senef, il y en a évidemment aussi à Anvers. C'est difficile de faire le lien, Michel de Melenard, entre des pollutions et puis des producteurs.
C'est clair, c'est évident qu'il y a un petit jeu d'essayer de se débarrasser des responsabilités. Dans le Torrey Canyon, le capitaine a commis des erreurs, les autorités ont commis des erreurs. Donc qui est responsable ? Est-ce que c'est celui à qui était destiné le pétrole qui est responsable ? Donc ça, c'est compliqué à faire, mais c'est un élément central du débat d'aujourd'hui. Enfin, un des éléments centraux du débat d'aujourd'hui. Qui est responsable ? Et qui est responsable non seulement du côté des entreprises, mais aussi du côté des politiques, du système économique, du consommateur. Qui est responsable ? La réponse, évidemment, c'est un peu tout le monde.
Oui.
Et il faut qu'un peu tout le monde prenne ses
responsabilités.
On n'est pas obligé de payer, mais en tout cas, il faut que tout le monde se rende compte de sa part de responsabilité et que tout le monde prenne les mesures qu'il faut pour essayer de faire face à ses responsabilités. Par ailleurs, sur la question des pertes et préjudices, se pose la question de la responsabilité historique aussi. Certains,
de manière rétroactive.
Exactement. Certains disant, oui, mais attention, moi aujourd'hui, je ne pollue que de quelques micro-pourcents de CO2, mais j'ai basé mon économie sur les émissions de CO2 des années ou des décennies précédentes. C'est typiquement le cas de nos pays à nous. Nous émettons relativement peu, mais nous avons émis beaucoup, nous avons exploité beaucoup, nous avons basé notre modèle de développement et notre richesse sur, quelque part, l'utilisation de l'atmosphère comme une poubelle et l'exploitation des pays en développement et de leurs ressources. Donc, cette responsabilité-là aussi, il faut la mettre sur la table et il faut la regarder en face.
Il y a une toute dernière chose que je voudrais aborder rapidement, et ça pourrait faire l'objet d'une émission en entier. Est-ce que c'est une question qui se pose aujourd'hui pour qu'au niveau juridique ça fonctionne ? Est-ce qu'il faut accorder un statut juridique à la nature ? Karine Thibault.
Alors, c'est une question complexe. Donc, il y a des endroits dans le monde, ils ont fait des choix d'accorder certains statuts juridiques, par exemple, à des fleuves ou d'autres. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Parce que quand je dis ça, pour beaucoup de gens, c'est très abstrait. Ça veut dire qu'il y a un comité avec plusieurs types de personnes qui est élu et dont l'objectif central est de maintenir l'écosystème divers, riches et protégés. Donc, qui a pour objectif le bien commun de l'écosystème en tant que tel. Nous, on pense qu'à travers, en tout cas, la reconnaissance de l'écocide comme 5e crime contre l'humanité, on entre quelque part dans une nouvelle tendance qui est de reconnaître à la nature des formes de droit, au sens où on reconnaît que la destruction massive, permanente ou durable d'écosystèmes est en fait quelque chose qui était un crime contre l'humanité. Donc, on donne à la nature un autre rôle que le rôle actuel, puisqu'on est issu du code civil napoléonien où la nature est un objet. En fait, la nature, c'est la même chose qu'une chaise dans notre code civil. Donc, c'est là où il y a un intérêt, en tout cas, à faire avancer la notion d'écocide. Et l'autre élément, c'est qu'il existe des juridictions comme aux États-Unis qui reconnaissent beaucoup mieux le préjudice écologique. Peut-être la nuance, je pense, sur reconnaître à la nature un nouveau statut aux écosystèmes, ça se fait aussi, par exemple, via le traité d'océan qui a été adopté le week-end passé, qui permet permet d'avoir des réserves marines en haute mer qui soient protégées. Pour nous, ça ne veut pas dire commencer à monétariser la nature, parce que c'est ça qui serait dangereux et qui est une fausse solution qui apparaît de plus en plus, par exemple dans les négociations climatiques, mais aussi dans les négociations...
Faut-il donner une valeur économique et pas seulement un statut juridique, faut-il
Et privatiser les baleines.
Et privatiser les baleines et aussi regarder en quoi elles peuvent nous aider à finalement avoir une trajectoire en phase avec l'accord de Paris, mais en fait en essayant de fonder notre stratégie non pas sur une réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais sur, en tout cas, acheter des droits naturels.
Un grand marché de la nature.
Voilà, donc je pense que c'est la nuance, évidemment, sur le sujet.
Michel de Mullenard, sur le statut juridique de la nature, pour vous, c'est un outil qui a du sens ?
Moi, je trouve que l'idée est amusante. Enfin, amusante, c'est un petit peu critique et cynique de dire ça. Je trouve qu'il y a des choses plus importantes que ça. Alors, personnellement, je trouve que c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui parle au nom de la nature. C'est important parce que...
C'est aussi un basculement culturel.
La nature, elle est muette et la nature, on lui marche sur la tête constamment. Parce qu'elle est muette, parce qu'elle ne se défend pas, parce qu'elle ne vote pas, parce qu'elle ne vaut rien, entre guillemets. Elle ne n'apporte pas d'argent. Hein. La nature, c'est évidemment faux. Mais ce que je trouve plus intéressant, en fait, c'est qu'on parvienne à faire passer dans la tête des décideurs et du grand public que l'environnement, c'est pas que l'environnement. L'environnement, c'est pas un truc qui est coupé de nous. L'environnement, c'est nous. L'environnement, la nature, c'est nous. Et si la nature et si l'environnement vont mal, nous allons aller mal et nous allons mal dans nos sociétés, dans nos économies, dans notre fonctionnement. Et donc, ce qui est important, c'est de reconnecter l'homme à l'environnement et qu'il comprenne qu'il en fait partie et que si il poursuit son entreprise consciente ou inconsciente de destruction et de grignotage, eh bien, c'est en fait lui qui va souffrir gravement de ce qui est en train de se passer. Et donc, il faut retrouver ce côté « je respecte ». Au moins parce que si je ne respecte pas, je vais en souffrir. Donc, c'est quelque chose qui est fondamental à ma vie sur Terre.
Comment le Torrey Canyon, la catastrophe du Torrey Canyon en 1967, nous ramène à nous, aujourd'hui, êtres humains, en 2023. Merci beaucoup Michel de Mullenard, journaliste au soir, spécialisé dans les questions d'environnement, d'avoir été avec nous.
Merci.
Merci Karine Thibault, porte-parole de Greenpeace, d'avoir été avec nous.
Merci.
Raconter le passé pour éclairer le présent, c'est ce que nous faisons chaque semaine dans l'Histoire continue.
Avec les archives de la Sonuma et à la réalisation Jonathan Rémy.